Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 26. Ouverture mondiale de la chaîne de magasins smartphones. Le secteur du luxe ne connaît pas la crise. Portée par une demande toujours plus forte et des prix toujours plus extravagants, l'industrie du luxe est en plein boom. Aujourd'hui, ce sont les riches technophiles qui pourront dépenser sans compter à Londres, Paris, Rome, New York et Tokyo dans une toute nouvelle chaîne de magasins baptisée smartphones, c'est-à-dire téléphones intelligents. L'enseigne lancée à grand renfort de publicité depuis plusieurs semaines dans tous les magazines de mode de la planète se spécialise en effet dans les articles connectés de luxe, montres, tablettes, téléphones, bracelets. À quelques semaines de Noël, alors que nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils connectés à Internet, il faut reconnaître à la jeune directrice générale de la marque un certain sens du timing, savamment appuyé par une aide financière et stratégique paternelle. Dans notre capitale française, c'est sur les Champs-Élysées que les portes de smartphones se s'ouvriront aujourd'hui à 10h. Une boutique gérée par un Français issu de l'EM Lyon, tout comme la directrice générale, ce qui montre s'il en est besoin que les grandes écoles françaises savent encore former des dirigeants à la hauteur des défis technologiques à venir. Anthony referma le journal et le posa sur son bureau. Son équipe de vendeurs était arrivée. Ils étaient tous là pour le premier jour. Il les briefa en quelques mots en faisant le choix de ne pas aborder le litige opposant la veille ces deux vendeurs au mode de fonctionnement antagoniste. Le motif lui semblait dérisoire et l'aborder devant toute l'équipe lui donnerait une importance infondée, ce qui pourrait entraîner d'autres divergences de vues du même ordre. Il fallait à tout prix éviter l'escalade et la contagion. Aucun des deux protagonistes n'évoqua le problème, aussi Anthony estima qu'il avait fait le bon choix. Un groupe d'une dizaine de personnes attendait devant la porte encore verrouillée. Anthony vérifia une dernière fois que les vitrines étaient convenablement fermées et que le système informatique qui faisait fonctionner les deux caisses était fonctionnel. Puis il ouvrit les grilles et accueillit les premiers clients non sans une certaine appréhension. Les badauds s'engouffrèrent dans le magasin pour en détailler chaque vitrine. Il s'agissait avant tout de jeunes passionnés n'ayant pas les moyens de s'offrir le moindre modèle, même le moins onéreux. La curiosité les avait poussés à entrer, mais à part quelques-uns qui furent estomaqués par les prix pratiqués, ils savaient que la boutique n'était pas faite pour eux. Les vendeurs profitèrent de l'occasion pour chauffer leurs arguments de vente, et Anthony, qui observait et écoutait à distance, reconnut les éléments de langage qui avaient été préparés pour chaque modèle. Les premiers véritables clients potentiels arrivèrent vers 11h, et ils n'avaient pas du tout la même allure. Manteaux de fourrure, bijoux et chaussures de grande marque, tailleurs sur mesure, ils sortaient d'une voiture avec chauffeur qui les déposait au pied de la vitrine, ou d'un taxi parfois. Anthony fut surpris par leur nombre et la diversité de leur origine. Beaucoup de riches étrangers flânaient à Paris, mais la nature de leur fortune elle-même était différente. Il y avait les rentiers qui avaient hérité de l'affaire familiale et qui se contentaient d'en cueillir les fruits mûrs. Il y avait les nouveaux riches qui, grâce à leur talent ou leur travail, avaient pu grimper l'échelle sociale en quelques années pour atteindre des sommets plus ou moins durables dans les médias, la finance ou les nouvelles technologies. Il y avait enfin les grandes familles industrielles françaises qui parvenaient à maintenir leurs affaires florissantes malgré les crises et les délocalisations, ou grâce à elles. Tous laissaient leurs cartes de visite pour demander la livraison de leurs achats et éviter de s'encombrer avec des sachets pour la suite de leur shopping. Tous cherchaient le produit le plus original, et souvent le plus cher, qui leur permettrait de se démarquer non seulement de la masse populaire, mais aussi de leurs homologues. Anthony reconnut tout à coup le couple qu'il avait croisé à Londres la veille dans le salon de thé. La fille paraissait encore plus grande et jolie que la veille. Elle portait des chaussures à talons de 10 cm qui l'obligeaient à se déplacer lentement, mais avec la force de l'habitude, elle le faisait avec grâce. L'homme à son bras était en pleine conversation à travers son téléphone portable. Volubile et impudique, il semblait donner à un courtier des ordres de vente qui se chiffraient en millions de dollars. Il finit par raccrocher et ranger son téléphone qui prenait un méchant coup de vieux à côté de ceux qui étincelaient de mille feux dans les vitrines. Il lâcha le mannequin qui resta scotché sur la vitrine des bracelets et s'approcha spontanément de la seule vendeuse qui faisait au moins 15 cm de moins qu'elle, c'est-à-dire la même taille que lui. « Montrez-moi donc ce que vous proposez, » dit-il en regardant directement sa poitrine à la limite de l'impolitesse. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» répondit la vendeuse habituée aux formes les plus rudes de la drague sauvage. « C'est pour mon épouse. Son téléphone est tombé alors qu'elle montait à cheval. « Dans ce cas, il faudrait peut-être lui faire choisir le modèle qu'elle préfère ?» dit la vendeuse en se tournant vers le mannequin. « Le souci, c'est qu'elle n'est pas à Paris. » Silence gêné. « Excusez-moi, » reprit la vendeuse, « nous avons un iPhone princesse serti de diamants. Faites voir. Je ne l'ai que sur catalogue, mais nous pouvons l'avoir avant Noël, bien sûr. Quel prix ? 130 000 euros. Une journée de salaire pour qu'elle le perde à cheval. J'ai des modèles moins coûteux. Non, c'est bon, commandez-en deux, dit-il en faisant un signe de la tête vers le mannequin. Celle-ci s'approcha de lui, les yeux brillants et un large sourire. Look at this beautiful bracelet. Sans même jeter un œil au bijou dont il était question, il demanda à la vendeuse. Combien pour le bracelet? 495 €. Ok, donnez-le-lui, elle les vaut bien, dit-il en sortant sa carte de crédit American Express. Le bilan financier du premier jour s'annonçait excellent. En revanche, Anthony s'aperçut que les stocks étaient particulièrement mal constitués, car il ne s'attendait pas à vendre à ce point les modèles les plus dispendieux et voyants. Visiblement, il n'avait pas su se mettre à la place de sa clientèle, et il considérait cela comme une faute personnelle, même si c'était une discussion qu'ils avaient eue avec Audrey et les autres responsables. La journée touchait à sa fin, et son équipe de vendeurs commençait à montrer des signes de fatigue. La voix usée par la répétition des mêmes arguments, les jambes engourdies par la station debout, ils regardaient leur montre de plus en plus souvent et laissaient échapper des bâillements inappropriés devant la clientèle. Bastien surprit Florian dans un de ses moments de flottement, et la fatigue aidant, cela raviva ses griefs de la veille. Toute la journée, il avait eu le sentiment d'appliquer à la lettre les consignes de vente, avec succès car il pensait à juste titre avoir été celui qui avait conclu le plus de ventes dans la journée. Pendant ce temps, Florian s'éternisait avec des clients perdus d'avance, laissait au contraire s'échapper de bonnes affaires en dirigeant les gens malgré eux vers les modèles sur lesquels la marge était la plus faible. Il trouvait par ailleurs sa désinvolture indigne de la clientèle et vint s'en plaindre auprès d'Anthony. « Vous ne trouvez pas qu'il y a un vendeur de trop ?»« Pas vraiment, non. Vous êtes tous sur les rotules, imagine avec un vendeur de moins. » »« Florian ne sert à rien. Il dessert plutôt l'image du magasin. »« Au moins, c'est franc, » dit Anthony, surpris par les propos directs du vendeur. « J'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Regardez-le, il y a un pan de sa chemise qui dépasse du pantalon. »« Stop ! Je ne veux pas entendre ça. Chacun d'entre vous a sa place ici. » Ce n'est pas un hasard si Florian fonctionne différemment de toi. J'ai sélectionné des profils variés précisément pour que chaque client trouve un vendeur qui lui corresponde. Il mentait, mais en déportant la responsabilité du problème sur lui, il espérait que Bastien range ses critiques par loyauté envers son directeur. Cela fonctionna, au moins temporairement. Très bien, excusez-moi, c'est vrai qu'on est tous un peu fatigués. Anthony s'apprêtait à fermer la grille quand une dernière cliente se présenta devant la porte. Sans la reconnaître, il lui pria d'entrer, et de ne pas hésiter à demander conseil. « Alors, c'est ici que tu travailles ?» Cette voix timide et familière l'ébranla. « Marion ? C'est ta maman qui m'a donné l'adresse de ton magasin, comme j'étais à Paris. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Mon bateau a débarqué à Brest, je devais passer par Paris pour revenir en train. »« Tu viens récupérer ta plante ?»« Oui, aussi. » Elle entra dans le magasin pour jeter un coup d'œil à l'intérieur des vitrines. Elle fut surprise par les prix affichés. Vous avez beaucoup de clients ? Pas mal pour un premier jour, oui. Je ne sais pas si les autres ont fait aussi bien, mais... Les autres. À Londres, à Rome, c'est une chaîne de magasins internationale. Ah, je l'ignorais. Les vendeurs qui avaient compris que cette femme était une connaissance d'Anthony s'éclipsèrent en saluant leur patron. Il les remercia en retour et ferma la porte derrière eux. Je t'offre un verre ? Mon appart est à deux pas d'ici. Je ne voudrais pas te déranger, tu as sans doute beaucoup à faire. La journée est finie. Viens, comme ça je pourrai te rendre ta plante. Elle a poussé ? Oui, c'est très joli. C'est que tu as su t'en occuper. À vrai dire, au début, pas tellement. Ah. Il éteignit les lumières. L'intérieur du magasin n'était plus éclairé que par les décorations lumineuses de Noël sur les Champs-Élysées. Marion resta figée un instant, n'osant plus se déplacer dans la pénombre. Viens, je vais fermer la grille. Ils marchèrent en silence sur le trottoir jusqu'à l'appartement sans trop savoir quoi se dire. Il la fit entrer et l'installa à la cuisine. Il chercha deux verres et des boissons, mais elle préféra boire de l'eau plate, il fit de même. « Tu as bien raison. Quand on a bu le jus d'abricot de ton père, ou ton jus de pomme, on ne peut plus rien boire d'industriel, j'en ai fait la mère expérience. Tu as goûté mon jus de pomme ?»« Oui, cet été. Bon sang, ça me semble loin, cet été. Il s'est passé tellement de choses depuis, je passe ma vie dans les avions et les taxis. Et ça te plaît, la vie ici ?» Il hésita un instant. Il ne s'était jamais vraiment posé la question de cette façon. « Oui, oui, je suis dans mon élément. Le commerce, les nouvelles technologies, ça me plaît, oui. »« Tant mieux, » répondit-elle d'un ton mal assuré. « Je vais chercher ton vase, » dit-il en se levant. « Reste là. » Marion observa autour d'elle le décor de la cuisine, le mobilier, la vaisselle. Au bord des larmes, elle paraissait tourmentée par de violentes contradictions intérieures. Lorsqu'il reparut, portant dans ses bras la plante en forme de cœur transpercée par cette fleur rouge sang, elle faillit éclater en sanglots, mais son émotion fut stoppée net par la sonnerie du téléphone portable d'Anthony. Celui-ci laissa tomber le pot de fleurs sur la table en s'excusant, puis se saisit de son appareil et décrocha. « Oui, Audrey ? Salut !» Il fit signe à Marion de l'attendre 2 minutes, puis s'éclipsa dans la pièce d'à côté. Marion caressa les brindilles vertes et jaugea l'humidité de la terre. Elle y versa le reste de son verre, puis elle chercha en elle la meilleure décision à prendre. Elle sentit monter à nouveau le flot de ses larmes, à mesure que la solitude la gagnait. Quand Anthony revint dans la cuisine, 1 dizaine de minutes plus tard, Marion avait disparu, laissant la plante sur la table. Elle avait également griffonné un message sur un bout de papier. « Prends soin de toi et d'elle. »